A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Le phénomène J.R. Dos Santos, est-ce que vous connaissez? Ah, si vous êtes un lecteur de thriller, forcément vous êtes tombé dans son chaudron. Sinon, je capitule et récapitule. J.R. Dos Santos, c'est l'histoire d'un ancien reporter de guerre, actuel présentateur du JT au Portugal, devenu auteur de best-sellers, avec une célèbre formule de Dieu dans la poche. Histoire, géopolitique, science, voilà les trois ingrédients qui font bouillir sa marmite de romancier un peu fou. Une folie du monde consommée dès l'enfance d'ailleurs, entre Mozambique portugais, Portugal et Macao. Le petit JR devenu le grand Dos Santos développe aujourd'hui un appétit du monde au rythme de 10 pages par jour, paraît-il, et d'un jus de mangue maison. Le résultat est sur la table. Le voilà qui clôt sa trilogie. Après la formule de Dieu et la clé de Salomon, nous devons faire avec Signe de vie. Nouvel opus qui l'annonce entre fiction et réalité. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Bonjour J.R. Dos Santos.
Bonjour.
Je vous appelle J.R. donc.
Oui, ça me va très bien. En effet, je suis connu au Portugal comme José Rodrigues dos Santos. Mais apparemment, mon éditeur m'a dit, bon, pour la France, c'est un nom très compliqué. Alors, on a fait J.R., ça me va.
J'ai juste l'impression d'être dans Dallas en vous appelant J.R., pardonnez-moi. Est-ce que vous préférez aujourd'hui présenter le journal ou faire des interviews ou écrire des romans?
J'aime faire un petit peu les différentes choses. C'est vrai que je fais le journalisme dès mes 17 ans. C'est pourquoi je me suis plongé sur la littérature. C'est parce que j'avais envie de faire quelque chose de différent.
Et être interviewé, est-ce que c'est agréable?
C'est intéressant. Et ça m'aide à être un intervieweur aussi. Parce que je comprends l'autre côté des choses. Et c'est une expérience différente.
A casa da sua infância.
Pouvez-vous me décrire la maison de votre enfance?
On va commencer par la première maison, parce que vous en avez eu plusieurs.
La première maison, j'étais trop petit. Je suis né au Mozambique, à Beira, c'est dans la côte, mais j'y suis resté seulement 2 semaines parce que mes parents, ils travaillaient à Tete, au nord de Mozambique. C'est le coin plus chaud d'Afrique au sud de l'Équateur. Et bon, j'y étais dans plusieurs différentes maisons, mais la première dont je me souviens, c'était la maison du directeur de l'hôpital, parce que mon père, il était le directeur de l'hôpital de Tete. Et c'était une maison à côté de l'hôpital, au sommet de la colline, devant le Zambèze, le grand fleuve africain. Et c'était là que ma conscience est née, vraiment.
Alors vous êtes né en 64, J.R. Dos Santos, année où le Frelimo, donc le Front de Libération du Mozambique dont on entend l'hymne à l'instant, lançait une guerre d'indépendance qui allait durer 10 ans. De quoi le futur Tintin reporter se souvient?
Bon, je suis né vraiment au cœur. La guerre a commencé dans Zambèze, c'était un autre district. Ils n'ont pas beaucoup pénétré parce qu'ils venaient de Tanzanie. Et ils ont essayé dans le district de Tete où j'étais. Alors c'était vraiment le cœur de la guerre. Et là, ils ont trouvé des moyens de pénétrer. Et alors, c'était vraiment le cœur des choses parce que je parlais tout à l'heure de ma maison au sommet de la colline. Et je me souviens très bien de voir le fleuve là-bas et les hélicoptères, c'était des alouettes français en effet, qui amenaient les blessés pour l'hôpital. Mon père, il était en médecin civil, alors il avait un avion, C'était en vérité ce qu'en anglais on appelle un flying doctor.
Un médecin aérien.
Oui, aérien, voilà. Et il atterrissait dans la jungle pour traiter les gens, des campagnes sanitaires. Et il traitait des soldats des deux côtés. Il traitait des soldats
portugais et mozambicains.
C'était en réalité un petit peu bizarre. J'ai écrit un roman à ce sujet qui s'appelle L'Ange Blanc. Et j'ai trouvé des histoires étonnantes parce que vous savez, la guerre, c'est une chose qu'on nous présente d'une façon très simple. Ici, les bons, là, les méchants. Ici, nous, là, l'ennemi. Et la guerre, c'est pas ainsi. Et je me souviens, par exemple, à l'hôpital de Tête, il avait des lits dans l'infirmerie et il avait un blessé, un soldat portugais, et à côté, un guerrier. Et les militaires portugais visitaient le soldat portugais et les chefs de Frelimo visitaient le guerrier à côté. Ils oui. étaient des ennemis. Évidemment, les guerriers ne disaient pas « Oh, je suis blessé en combat », ils disaient « Oh, je me suis blessé dans la jungle ». C'était un environnement très, très particulier.
Et comment votre père, donc ce flying doctor, a vécu cette guerre coloniale? Est-ce qu'il comprenait les aspirations indépendantistes, lui portugais,
non,
dans ce Mozambique?
Son point de vue, c'était « bon, je suis médecin, mon travail c'est de guérir les gens ».
On a toujours un point de vue quand même quand il y a une guerre.
Oui, mais voilà, mon roman s'appelle « L'Ange Blanc ». Il s'habillait tout blanc. Des chaussures jusqu'à la chemise, tout était blanc. Sa voiture était blanche, l'avion il était blanc. Et vraiment, il avait une très grande neutralité.
Bom, português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se viva. É a libertação da pátria.
Et puis voilà que vos parents se séparent lorsque vous avez 9 ans, JR. Là, vous suivez votre mère à Lisbonne, en pleine révolution des œillets.
Oui, bon, quand la révolution est apparue en 1974, j'étais à Mozambique. Et bon, c'était pour les Portugais, il faudrait sortir du pays de Mozambique. Et d'autres, on est parti d'Angola. Alors, soudain, le Portugal, un pays de 8 millions de personnes avaient 10 millions, parce que 2 millions sont arrivés soudainement. Et moi aussi, j'étais dans cette foule qui est arrivée, et j'ai trouvé un pays tout à fait différent, toute une expérience différente de celle d'Afrique. L'Afrique, c'était une chose, on avait une liberté qu'on n'avait pas en Europe.
Sur quel plan?
Non, pour un enfant, pour jouer à la rue. C'était beaucoup plus libre. En Europe, non. Il y avait des règles partout. C'était une époque, je pense que les Français ont encore cette image du Portugal. C'est le Portugal où les femmes s'habillaient de noir. Et pour nous, parce que je suis un pied noir portugais.
Ah, vous vous définissez comme ça?
Non. J'utilise la définition française pour devenir okay. plus clair. Et je me souviens très bien qu'à l'école, au lycée, c'était très facile de trouver c'était lesquels les étudiants qui venaient d'Afrique, les Portugais d'Afrique, par comparaison aux locaux. C'était que nous étions plus grands et aussi parce que nous étions des meilleurs étudiants. Aussi, je me souviens qu'au Portugal, c'était au nord, les gens parlaient avec des mots sexuels beaucoup, et pour nous, au Mozambique, ça ne se passait pas. Alors, c'était aussi un choc. Aussi, je me souviens une chose si petite comme prendre des bains. Au Mozambique, on prenait un bain chaque jour, c'était une chose normale. Et au Portugal, c'était une fois chaque semaine. Et pour nous, c'était bizarre. Alors, il y avait vraiment un choc de mentalité entre les deux mondes.
Et puis vous voilà en plein nouvel an chinois à Macao, donc sur la côte sud de la République populaire de Chine. Vous y restez de 16 à 18 ans. Et là, j'imagine, JR dos Santos, que vous y vivez de nouveau un mélange de cultures, culture portugaise, culture asiatique.
Oui, c'était très intéressant parce que j'étais au Portugal pendant quelques années, mais la vie au Portugal, c'était trop froid et tout ça. Et alors mon père, il a décidé d'aller à Macao. C'était à cette époque une colonie portugaise. Et c'était vraiment une autre chose tout à fait différente, ce mélange entre culture portugaise et chinoise, même si les deux mondes se touchaient, se respectaient, mais ne se mélangeaient pas trop. Un jour, j'ai écrit un conte sur cette époque-là et je parle des fantômes parce que les Chinois étaient nos fantômes et nous étions les fantômes des Chinois. Il n'avait pas ce mélange, c'était un monde un petit peu bizarre.
Ce qu'on peut dire en fait, c'est que grâce aux navigateurs portugais, vous avez vu du paysage très tôt, JR, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Est-ce que de vivre sur des continents aussi différents, ça a façonné votre manière de vivre et votre manière de percevoir le monde ?
Absolument. Vous savez, j'ai deux filles. Et bon, elles sont à l'école et tout ça. Bon, une d'elles est déjà médecine, mais je fais toujours l'essai de les amener en voyage. Parce que je comprends que les voyages, c'est la meilleure façon d'éducation. Des choses petites. Je fais un reportage avec mon cameraman. Mm-hmm. Et on va à un coin quelconque. Il me dit, bon, je veux, où est-ce qu'on peut manger quelque chose portugais ? Et je dis, mais t'es con, quoi ? Mais nous sommes, par exemple, en Australie, il faut manger des choses qu'il y a ici. La nourriture indonésienne, par exemple. Voyager, c'est une façon d'ouvrir les horizons. Et c'est ce que je trouve beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays, c'est que les gens n'ont pas des horizons. Et ils sont beaucoup enfermés dans son espace. Et voyager, ça va relativiser les choses et va nous permettre de comprendre le monde d'une façon tout à fait différente.
On va poser un pied à Lisbonne, pour commencer, pas très loin de la Maison de Dieu, c'est-à-dire chez Madre Deus, que vous avez programmé en sol majeur. Pourquoi vous vouliez écouter cette chanson en particulier ? Je vais massacrer le titre. Aha, ok, ove.
Aja, ok, ove.
Voilà. Qui veut dire quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, bon, c'est une chanson, mais c'est une chanson vraiment très belle, à mon avis. Elle a du chic dans sa musique, parce que j'ai l'idée que les gens en France ont l'idée que le Portugal, c'est le fado et tout ça, mais c'est pas le cas. Oui, c'est le traditionnel. Je me souviens quand j'ai publié mon premier roman en français, La Formule de Dieu, il y a 7 ans, les gens me posaient des questions comme « Ah oui, le Portugal où tout le monde est dans les églises et tout ça. » Mais c'est en image des années 60, parce qu'aujourd'hui, les églises sont vides.
Donc les églises sont vides, mais il y a Madre Deus.
Voilà.
Pour un sol majeur. La douceur de Madre Deus dans ce monde de brutes.
C'est
beau, c'est une chanson d'amour, voilà. Celui de J.R. Dos Santos, né au pays des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire dans le journalisme. Et même qu'en écrivant des thrillers, bah, il fait toujours pareil. Profession reporter, signe particulier, avec une houppette blonde.
J'irai droit au but, monsieur Tintin. Avez-vous vu mon messager en Inde?
Oui, mais il a été frappé par une fléchette empoisonnée et il a perdu la raison.
Empoisonné?
Il n'a pu prononcer que deux mots. Votre nom est Shanghai.
Les scélérats, ils ne reculent devant rien.
Qui ça? Il.
Enfant.
Pardonnez-moi, je ne puis vous en dire davantage. Ma propre vie serait en danger. Mais vous devez quitter Shanghai, immédiatement.
Est-ce que vous rêviez de faire la révolution?
Quelle révolution?
Celle que vous voulez.
Je suis une personne qui croit à la réforme plus qu'à la révolution, même si, dans quelques situations, il faut l'avoir.
Mais ça, c'est une réponse d'adulte. C'est pas la réponse de l'enfant que vous avez été.
Non, bon, on écoutait Tantan. En effet, vous savez, mon français, il vient de Tantan. Parce que quand j'ai commencé à étudier au lycée, les langues étrangères, la première langue étrangère, c'était le français. Alors j'ai pris
au Mozambique
2 années de français et puis on a changé pour l'anglais. Mais c'est tout le français que j'ai appris, c'était dans ces 2 années. Mais j'aimais beaucoup les bandes dessinées franco-belges, Tintin, Spirou, Blake et Mortimer, Astérix, Lucky Luke, tout ça. Et je lisais au commencement dans les traductions portugaises, mais après je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup des albums qui n'étaient pas traduits. Alors j'ai commencé à lire en français et pendant beaucoup d'années, je ne suis pas venu dans un pays de langue française. Alors quand je suis venu pour la promotion de La Formule de Dieu, mon français c'était le français de la bande dessinée. Alors je disais des choses comme « saperlipopette » et « partoutatis ». Et on m'a dit
«
bon, il ne faut pas dire ces choses-là, c'est un petit peu drôle ». Et alors j'ai un petit peu évolué dans mon français, mais quand même c'est un français de bande dessinée.
Alors, vous qui allez faire du journalisme dès les années 80, puis rentrer à la BBC en 86, d'ailleurs la BBC qui vous surnomme, qui vous baptise Tintin, vous allez commencer à signer ensuite des reportages pour la télévision nationale portugaise. Est-ce que cette vocation de Tintin reporter, vous la devez vraiment au héros de Hergé?
C'est une bonne question. Oui, sûrement il y a quelque chose là, de chercher l'aventure, d'aller au coin où les choses se passent. Mais je pense qu'aussi, c'est un instinct de journaliste. Mais je pourrais être un journaliste différent. Par exemple, la politique, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui m'intéresse, les sujets internationaux, oui. Aussi, ma éducation, qu'il y a beaucoup de voyages. Et peut-être l'envie inconsciente d'être Tintin.
En tout cas, au catalogue des grands événements d'actualité, de ces événements qui vous ont marqué, en tout cas, en tant que présentateur vedette du JT d'ailleurs, hein, vous êtes le PPDA, si j'ose dire, ou le Laurent Delahousse français. Il y a la nuit du 16 janvier 91 en particulier qui vous a marqué, qui a marqué le monde entier.
Oui, en effet, c'est la nuit du commencement de la guerre du Golfe en 91. Je suis à peine arrivé au Portugal, je présente de la BBC, je présentais le journal de fin de journée, et pendant le journal, soudain, mon producteur m'a dit « On a attaqué les Américains, on a attaqué l'Irak ». Alors j'ai commencé à faire une émission toute improvisée. Nous avions la CNN et mon anglais m'a aidé beaucoup. J'ai resté jusqu'à 8h du matin et du nuit au matin, je suis devenu très connu au Portugal à cause de ça. Et c'est pourquoi l'année suivante, je suis allé faire le GT.
Et en vivant cette nuit-là, vous avez aussi l'impression grisante de vivre l'histoire en marche?
Oui, j'avais l'impression évidente qu'après le golf, tout serait différent. Ça a bouleversé la façon de couvrir une guerre, de comprendre que c'est une guerre, et pour les militaires de la faire aussi.
Alors effectivement, vous vous souvenez, vous, le reporter de guerre de l'année 2011, lorsque vous vous retrouvez au front, en Libye.
As forças de Kadhafi bombardeiam esta posição, tentando empurrar as tropas rebeldes para a Jebadia.
Saia daqui, gritou um rebelde. Não vê ali o inimigo? Saia daqui já!
Vada, vada, flow, não!
Os carros arrancaram no meio de grande confusão, num esforço desesperado para fugir à artilharia de Gaddafi. Recuámos um quilómetro e logo as forças rebeldes se reagruparam para o contra-ataque. As catiuxas tomaram posição e abriram fogo sucessivo. O caos generalizava-se no campo de batalha. Na Líbia.
Juste avec le son, sans les images, c'est déjà très impressionnant. Donc pour Ansel Majeur, J.R. Dos Santos, sur un terrain de guerre pendant cette révolution libyenne. Et quand on regarde les images, on se dit que c'est impossible ce boulot, de commenter des combats là en
Oui, c'est. Peut-être il faut faire un contexte. Chaque guerre, elle est différente. Mais il y a une chose qui est générale dans les guerres, c'est le contrôle des journalistes. On fait le contrôle, il y a des checkpoints où on ne peut pas arriver au front comme ça. C'est très compliqué, sauf en Libye. Quand j'étais en Libye, j'étais à Benghazi avec les rebelles. Et quand j'étais là, je pensais qu'il y a toute cette série de films avec Mel Gibson, Mad Max, qui se passe en Australie, dans le désert et tout ça, c'était la Libye. Les gens avec des lunettes d'aviateur, dans le désert, avec la poussière, et dans les jeeps, avec les mitraillettes et tout ça. Bon, c'était très bizarre et ils n'avaient pas de contrôle. Et j'arrivais, alors à ce moment-là, c'est ce reportage-là, je suis arrivé au-delà du front. Je suis vraiment entre les deux forces. Et j'ai continué jusqu'à un moment où il n'y avait pas de force et on a commencé à tirer autour de nous. Et bon, c'était le reportage.
Donc il y a un rebelle qui arrive et qui vous arrête, qui essaie de vous protéger.
Il me dit, il y a un franc-tireur là, tu ne vois pas, il est en train de tirer sur toi. Puis les grenades de les forces de Gaddafi tombaient. Et de ce coin-là, on a fait en direct avec la bataille qui continuait autour de nous. C'était une chose extraordinaire.
C'est-à-dire, c'est drôle quand vous le racontez parce que vous associez ce moment-là tout de suite à un film de Mad Max notamment. Qu'est-ce que vous aviez comme sentiment sur le terrain en vivant cette guerre ?
Parce que c'est notre référence, le cinéma. Alors nous sommes dans un théâtre tridimensionnel. On a peur, bien sûr, mais il y a une sorte d'excitation. C'est un petit peu bizarre de le dire. Et souvent, on me pose la question, mais qu'est-ce que vous aimez dans le reportage de guerre ? Et ma réponse, elle est très sincère. C'est ce que j'aime plus dans le reportage de guerre, c'est quand je suis de retour chez moi.
Le meilleur moment dans la guerre, c'est de rentrer à la maison, comme vous dites. Et peut-être aussi parce que dans votre besace, il y a des histoires possibles, des personnages que vous avez croisés sur cette route de la guerre. Est-ce que sur le terrain, en tant que reporter de guerre, vous avez rencontré beaucoup de héros ?
Vous savez, une chose que j'ai appris, c'est qu'il faut une certaine distance du front pour trouver les choses. Mais je me souviens d'un cas d'un journaliste anglais qui s'appelle Mark Starr, au Timor-Oriental, qui a filmé un massacre. Bon, ces images ont vraiment donné l'indépendance au Timor-Oriental. Et ce qu'il a fait, c'est vraiment une chose très difficile. Mais encore, il était anglais, alors il était sûr que ne le tuait pas, puisqu'il était anglais, alors les Indonésiens ne pouvaient pas le faire. Alors voilà pourquoi il faut quelques distances pour trouver un héros.
Vous n'êtes pas devenu un journaliste héroïque, mais en revanche, vous avez accouché d'un héros, votre fameux personnage. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de quitter les zones de guerre pour entrer dans une autre zone, celle de la fiction ?
Le fait que j'ai découvert que la fiction est un moyen plus puissant d'arriver à la vérité que dans le discours non fictionnel comme le discours journalistique ou le discours d'histoire ou même le discours juridique. Dans ces discours, nous sommes concernés avec qu'est-ce qu'on peut prouver. Mais il y a des choses qu'on n'a pas la preuve, mais on sait qu'elles sont vraies. Et avec la fiction, je peux y arriver. C'est ça qui m'a attiré vers la fiction.
Imaginons un Big Bang numéro 2. Vous rencontrez un extraterrestre qui n'a jamais entendu parler de votre monde. Que lui dites-vous ?
Mais la Terre, c'est un coin étrange. Je dis toujours que Il y a beaucoup de mystères autour de nous, et dans notre monde, dans l'univers. Et mon travail en tant que romancier, c'est vraiment de récupérer ce mystère qui est autour de nous.
Et aux terriens que nous sommes, comment est-ce que vous présenteriez votre fameux héros, Thomas Noronha ?
Quelqu'un qui cherche la vérité, quelqu'un qui est vraiment un anti-héros. Il a des problèmes de la famille, sa mère a Alzheimer, il tombe en tentation. Mais il y a une petite amie, mais peut-être il y a une autre fille qui est très jolie, alors il tombe en tentation dans ce sens. Il est vraiment très humain, mais il est intelligent. Et il arrive à résoudre ses tentations et à résoudre les problèmes qui sont devant lui.
C'est pas un super-héros, il a une vie ordinaire, il ne se bat pas, il n'a pas de pouvoir supérieur, mais il a rendu plusieurs fois service à l'humanité.
Oui, parce qu'il cherche la connaissance, par exemple avec la formule de Dieu. La question qui est au centre de ce roman, c'est qu'est-ce que la science a découvert au sujet de Dieu ? Je ne veux pas dire la science ésotérique, non, je veux dire la science, la vraie science, Einstein et tout ça. Avec, par exemple, la clé de Salomon, qu'est-ce que la science a découvert au sujet de la mort ? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Et Sindville, le dernier roman, qu'est-ce que c'est la vie ? Est-ce que la vie, elle est un hasard ou elle est une nécessité ? Et est-ce que la vie, elle est un accident ou elle est dans le plan d'univers ? Est-ce qu'il y a un plan ? Alors, ce sont des questions qui sont posées dans ces romans, où je travaille, où Thomas, il est l'héros. Et je pense que dans ce sens, il rend service au lecteur. Mmh. Parce que je dis souvent, mes bouquins, ils sont des passe-temps parce qu'on s'amuse à lire. On a envie de tourner la page pour savoir ce qui va se passer. Mais ils sont aussi des gagne-temps. Parce que pendant qu'on s'amuse, on apprend des choses sur nous, sur notre monde, sur l'histoire, sur l'univers. Et dans ce sens, c'est un service qu'il nous rend.
Alors, dans Signe de vie, votre nouvel opus, votre Thomas, qui n'est pas astronaute, hein, il va accompagner la mission Atlantis pour participer à la rencontre avec Phanès. Bon. Thomas, qui a été choisi par le gratin mondial, si j'ose dire, par le pape, la NASA, l'ONU, pour représenter l'humanité dans ce premier contact avec une civilisation extraterrestre. Est-ce que c'est important, vous pensez, que ce représentant de l'humanité soit portugais ?
Non, pas du tout. La nationalité n'a aucune relevance, sauf que, évidemment, mon lecteur portugais, il serait content.
Mais les Portugais ont œuvré pour écrire l'histoire du monde. Il y a eu de grands navigateurs.
On a ce rôle. Le premier homme à faire le tour du monde, c'était Magalhães, un Portugais évidemment. Et la découverte du chemin pour l'Inde, le rêve de Christophe Colomb, qui n'a jamais abouti, c'était Vasco da Gama, qui est arrivé en Inde.
Alors, il n'est pas dans cette tradition-là, finalement, un petit peu ?
Oui, il y a quelque chose de gens du monde chez les Portugais. On trouve, par exemple, dans la côte asiatique, vous trouverez des communautés portugaises partout, parce que l'expansion portugaise, différemment des autres expansions européennes, s'est fait en mélangeant avec les gens locaux. Le roi portugais a donné des ordres aux marins de se marier avec les filles. Les Espagnols, ils cherchaient l'Eldorado, le trésor. Et les Portugais, ils savaient dès le début qu'ils n'avaient pas de trésor. Le vrai or, le vrai Eldorado, c'était le commerce. Alors, aller en Inde, prendre les épices pour l'Europe et les vendre plus au bon marché que par Constantinople et Venise. Et vous savez, le Portugal, c'est un pays très petit vraiment. C'est 10 millions de personnes. Et c'est un avantage pour un pays ainsi parce que nous n'avons pas des rêves de grandeur. Nous savons que nous sommes petits et nos pieds sont toujours au sol.
En tout cas, vous revenez sur cette hypothèse, entre guillemets, une vie biologique sur Mars. Est-ce que c'est de la fiction ou pas ? Dans le doute, la grande question, c'est la question de la communication. Comment communiquer avec ces fameux extraterrestres ? Comment répondre, par exemple, à ce fameux signal, wow, je ne sais pas comment on dit, de 72 secondes qui a été reçu en 77 par le fameux télescope de l'Université de l'État de Ohio. Et vous, dans votre roman, J.R. Dos Santos, vous pensez que la communication peut passer éventuellement par les mathématiques ?
Oui, parce que c'est le langage universel. Vous savez, l'univers, il est construit dans un langage mathématique. Et s'il y a une intelligence qui a la capacité de voyager en grande distance, elle doit connaître forcément les lois de la physique, et ces lois sont basées sur la mathématique. Alors, avec la mathématique, je pense que c'est la seule façon de communiquer avec eux, même si ce n'est pas une communication très satisfaisante. Comment on dit à une fille « je t'aime » en mathématiques, hein, c'est compliqué.
Ah oui?
Je pense, oui. Comment dire « je t'aime » en langage mathématique.
Mais le poétique et les mathématiques, ça va ensemble, et même vous faites un lien entre l'esthétique, oui, et les mathématiques.
Oui,
la preuve par le nombre d'or.
Oui,
qu'est-ce que c'est que le nombre d'or?
Bon, le nombre d'or, c'est une proportion mathématique qu'on trouve dans les choses que nous pensons que sont des choses belles, soit de l'architecture, soit de la peinture, soit de la musique. Il y a un très fort rapport entre la musique et la mathématique, par exemple, ça s'est beaucoup étudié. Et finalement, on pense qu'il y a une liaison très forte entre la mathématique et tout l'univers. Il y a même des grands mathématiciens comme James Jeans qui a dit « la mathématique, c'est le langage de Dieu ». Et il y a beaucoup de vrai là. Alors, ce que je vais lire un morceau de Signe de vie. Écoutez, vous ne comprenez pas où je veux en venir, répond-il. Ce n'est pas spécifiquement le rapport du nombre d'or à la musique qui est important. C'est le lien avec l'esthétique en général. De la même manière que la proportion dorée existe dans la musique, elle existe aussi dans d'autres formes artistiques comme la peinture ou l'architecture. Leonardo da Vinci a utilisé le rectangle d'or pour dessiner le visage humain. Et le sculpteur grec Phidias s'est servi de fille pour concevoir le Parthénon. Ce que j'essaye de démontrer, c'est qu'il y a une constante mathématique qui joue un rôle dans la conception de la beauté.
Ainsi parlait votre héros, cher J.R. Dos Santos. Merci d'avoir lu un extrait de la traduction française de Signe de vie. Vous avez eu un droit de regard sur cette traduction française ?
Non, pas du tout. Vous savez, à ce moment-là, je travaille sur 3 romans et un essai, et puis je fais le GT, alors je fais confiance au traducteur.
Vous avez combien de cerveaux, vous?
Non, seulement. Et c'est seulement 24 heures le jour, alors bon.
Alors, vous nous disiez que c'est la langue d'Hergé, finalement, qui vous a enseigné cette langue française. Ça a été votre vraie maîtresse d'école. Et je me suis amusée à regarder un petit peu la vie d'Hergé, qui était inspiré pour écrire ses Tintins, qui se laissait inspirer par ses tranches de vie à lui. Par exemple, son Tintin au Tibet lui aura été inspiré par une dépression qu'il a faite. Il a commencé à faire des cauchemars.
Après son divorce.
Est-ce que vous aussi, vous vous laissez inspirer dans votre travail de romancier par votre vie d'homme, de journaliste, de citoyen ?
Oui, peut-être pas consciemment, mais les choses se passent. Je vous raconte, il y a des histoires drôles dans mes romans, par exemple. J'ai écrit un roman qui n'est pas traduit en français. Je vais faire un spoiler. Ça veut dire que je vais raconter la fin du roman. Alors, le roman s'appelle « La fille du capitaine ». C'est une histoire d'amour entre un capitaine portugais et une française devant l'île pendant la Grande Guerre. C'est que la fin du bouquin, la fille qui s'appelle Agnès, elle est décédée avec la grippe espagnole. Et bon, l'héros, il est tout seul, alors il revient en Portugal et quelques années après, il va découvrir qu'il a une fille, qu'elle l'a laissé une fille. Alors le bouquin termine avec son rencontre avec sa fille. Et c'est intéressant parce que j'ai publié un roman. 2 années après, j'étais avec une tante et elle m'a dit « Mais comment tu savais l'histoire d'oncle quelque chose ?» Je dis « Mais quelle histoire ?» Mais c'est la même histoire. Et c'était une histoire de ma famille que j'ai racontée, oui, dans le roman. Avant de savoir qu'il avait cette histoire, c'était un secret de famille. Alors souvent se passent des choses ainsi drôles dans la littérature où je pense que je vais créer une chose et finalement c'est pas le cas. Même Thomas, par exemple, sa mère, elle a Alzheimer. Et j'ai créé ça en fiction il y a 10 ans. Et ma mère, elle a Alzheimer aujourd'hui.
Votre personnage, Thomas, c'est un peu votre alter ego ?
Oui, finalement, je suis forcé
à reconnaître,
être d'accord un petit peu. Oui, à, voilà, on est de retour chez Hergé. Hergé, il disait « Tintin, c'est moi ». Et un petit peu, c'est vrai que Thomas, c'est moi.
Dis-moi qui tu lis et je te dirai comment tu écris. Parce que dans votre bibliothèque, J.R., il y a un certain Somerset Maugham C'est un auteur qui n'est pas forcément connu hein, aujourd'hui des jeunes générations, donc il faut rappeler qu'il a été élevé dans un monde un peu proustien, de bourgeois britanniques, mais vivant en France, à Paris. Vous avez déjà entendu sa voix ?
Moi, je connais très bien Somerset Maugham. Vous savez,
On va écouter sa voix, puis vous nous direz tout après. Bon, mais vous allez nous traduire ce qu'il dit. Il explique un petit peu les liens qu'il y a, selon lui, entre la vie et l'art.
I've used my writings pretty well. Everything that has happened to me in the course of my life. Sometimes an experience of my own has given me an idea. And I have invented the incidents to fit it. But more often, I've taken a people I knew, either slightly or intimately, and used them as a foundation for characters of my own invention. To tell you the honest truth, fact and fiction are so intermingled in my work that now, looking back, I can hardly distinguish one from the other.
La voix sépia de Somerset Maugham pour En sol majeur, un auteur que vous lisez, que vous admirez et que vous pouvez traduire d'ailleurs, J.R. Dos Santos.
Oui, bon, et ce qu'il dit là, c'est une chose évidente. Il dit, dans ma fiction, la réalité, la fiction, elle est très mélangée. C'est ce qui se passe justement avec mes bouquins. Et il dit que je prends des épisodes de ma vie, mais plutôt, je prends des personnages vrais à qui je parle et je prends des choses de leur vie ou de leur personnalité pour amener dans mes personnages de fiction. Somerset Maugham, il est né à Paris. Il est décédé au Cap-Ferrat. Il est encore aujourd'hui l'écrivain, le romancier plus lu de langue anglaise après Charles Dickens.
Mais pourquoi vous l'aimez ? Parce que ça peut être présenté comme un auteur un peu pépère, un auteur de nouvelles pour dames, comme dirait quelqu'un.
Oui.
À quoi il correspond pour vous quand vous pensez littérature ?
Il correspond à une image de comment écrire. Il y a une vision sur la littérature. Il y a un débat très fort dans la littérature, en Europe continentale en général et en France en particulier, où la grande littérature est le langage. Travailler le langage, travailler le style. Il y a des auteurs qui écrivent avec beaucoup de virgules, avec des autres qui écrivent sans virgule, sans majuscule, n'importe quoi. Bon, je ne suis pas de cette école-là. Je suis dans l'école anglo-saxonique, comme Somerset Maugham. Somerset Maugham, c'est un auteur qui écrit très simple. Très simple. Et écrire simple, c'est difficile. Il écrit d'une façon que tout le monde comprend. Et il y a une certaine superficialité dans ses histoires. Et soudain, les histoires deviennent très profondes. Mais vraiment très profondes. Il se pose des questions existentielles même dans une petite histoire. Et après, il peut revenir à la superficialité. Alors, il y a cette facilité de raconter des histoires, de poser des questions fondamentales sur nous, avec des histoires simples. Et pour moi, ça c'est la grande littérature, et c'est ce qu'il fait. Et vraiment, c'est lire Somerset Maugham, c'est une leçon de bonne littérature.
Et en même temps, vous parlez admirablement la langue de Molière. On peut faire cette interview tranquillement de Santos, mais est-ce que pour autant vous vous sentez lié à la culture française?
Oui, je suis lié. Bon, et premièrement, à cause de la bande dessinée, j'écoutais beaucoup la musique française, mais c'était les auteurs de jadis, Charles Aznavour, Jacques Brel, bien évidemment belge, mais tout ça, les modernes, je ne connais pas. Après, je me suis allé beaucoup plus dans le monde anglo-saxonique. J'ai vécu en Angleterre. Mon influence littéraire, c'est toujours anglo-saxonique. Mais évidemment, parce que je suis si souvent en France, la France me touche aussi très proche.
J'aime bien comment vous dites ça. On va se rapprocher un peu de Dieu. Je ne sais pas très bien lequel, peut-être que vous nous le définirez, mais j'ai une question. Puisque Dieu vous occupe l'esprit beaucoup, ça vous inspire quoi ? La Gnossienne numéro 1 par le Dieu Eric Satie.
Satie, c'est un de mes musiciens favoris. Encore, toujours, la simplicité. C'est ce que je trouve qui est un plus important dans l'art. C'est la simplicité. Parce que l'art n'est pas une reproduction de la vie. C'est une esthétisation de la vie. Et c'est ce qu'on trouve dans l'art qui joue le simple, mais d'une façon qui n'est pas évidemment facile.
C'est comme carpe diem.
Que vous inspire cette locution latine, carpe diem?
Bon, saisir le moment. et finalement, c'est ça la vie, hein, saisir le moment, parce que les choses sont transitoires.
Est-ce que vous pensez alors finalement qu'il y a quelque chose après la mort?
Ah, la grand mystère, hein. Alors, la réponse devrait être simple. Vous voulez une réponse plus complète ou plus simple? La plus simple, c'est « je ne sais pas ». La plus complète, c'est « il y a un grand mystère là-dedans ». Et je trouve même des mystères autour de moi, dans ma famille, au sujet de la mort, que nous fait penser. Alors, il n'y a pas de magique, mais quand même, il y a quelque chose.
Aujourd'hui, J.R. Dos Santos, vous êtes la deuxième personnalité préférée des Portugais, derrière le joueur de foot Ronaldo. Et preuve de votre grande notoriété, vous avez votre marionnette à Contra in Farmaçao, je sais pas comment on prononce ça.
Oui, le grand guignol.
La version portugaise des guignols de l'info. Ça sert à quoi, la célébrité?
Ça sert à rien, vraiment. On ne peut pas faire des conneries dans les rues. Parce qu'on nous regarde.
Ça dépend, on peut faire des grosses conneries et être pardonné ou avoir une sorte d'impunité.
Pensez-vous? Non, je n'ai jamais pensé ainsi.
Pas vous, mais le système, on veut dire.
Peut-être, je n'ai pas pensé ainsi. Je sais que les gens me regardent et il faut donner le beau exemple. C'est pourquoi...
Donc vous êtes moins libre?
Oui, dans un sens, oui. Mais je voyage beaucoup. Je suis plus à l'aise à l'étranger qu'au Portugal à cause de ça.
Et alors vous, le grand voyageur, aujourd'hui, votre sol majeur, il est où?
Je pense que c'est la planète. Je suis à l'aise partout. Mais c'est vrai que quand on est chez nous, c'est bien. Mais quand je dis chez nous, je ne veux pas dire mon pays, je veux dire ma famille. Je ne suis pas un Portugais typique. Mais vous savez, les gens sont pleins de contradictions. Je peux être très émotionnel dans quelques situations et très rationnel dans d'autres situations. Et c'est très difficile de répondre parce que nous sommes pleins de contradictions nous-mêmes que c'est impossible de le faire. Par exemple, les hommes, ils sont très courageux, c'est vrai. Mais par exemple, dans les relations amoureuses, les hommes sont des lâches. Ils peuvent, dans le champ de bataille, aller contre l'ennemi dans le front, mais ils ont peur de dire à une femme « je t'aime plus ». Et c'est une chose étrange chez la fiction, c'est que les personnages de fiction doivent être très cohérents, tandis que les êtres humains sont très incohérents.
J'aime bien cette chute.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à J.R. Dos Santos, Signe de vie, donc nouvel opus paru chez HC Éditions. Et puis, une date à cocher dans votre agenda si vous vous trouvez en France, le Marathon des mots auquel vous allez participer, JR, du 28 juin au 1er juillet. C'est une 14e édition qui zoome sur les lettres lusophones avec un plateau exceptionnel d'auteurs qui viennent du Brésil, d'Angola et du Portugal. Et ce marathon aura lieu à Toulouse, dans le sud de la France. U2, pour refermer son sol majeur, de façon très rock alors.
Oui, j'aime beaucoup la musique irlandaise et U2, c'est vraiment magnifique.
If you twist and turn away, if you tear yourself into again, if I could, yes I would, if I could, I would let
avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10, temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère demain avec Ndaye Fatou Kane. À demain.